Bonjour et bienvenue sur Radio Cessord. Je suis Marc-Frédéric Gomez et nous sommes le 3 septembre 2024. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et nous sommes en direct de la région parisienne. Ouais, le retour est dur, hein. Vous retrouvez bien entendu tous les liens en description de sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser un message sur la ligne des auditeurs de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. C'est le prix d'un appel sur un mobile free localisé en France. Donc en théorie, si vous appelez à partir de votre portable, vous ne devez rien payer, c'est pas surtaxé. Ça sera la bonne surprise. Commençons cet épisode par l'affaire OTP Agency remontée par le blog Security Affairs. Cette plateforme illégale a permis à des cybercriminels de contourner des mécanismes d'authentification multifacteur, les fameux MFA. Les attaquants exploitaient des outils de phishing vocal, ce qu'on appelle du phishing, et des bots automatisés pour capturer les codes OTP, les one-time passcode, envoyés par SMS, contournant ainsi l'authentification à deux facteurs. Les techniques utilisées par les attaquants, qui ont utilisé des scripts automatisés pour envoyer des appels vocaux aux victimes, prétendaient être des représentants de leur banque, c'est des faux centres d'appels en sorte. Ces appels, combinés à des informations déjà collectées via des attaques de phishing, permettaient d'obtenir le code OTP en temps réel. Ensuite, via leur infrastructure, OTP Agency fournissait une interface web où les cybercriminels pouvaient initier et suivre en temps réel les attaques contre leurs cibles. Alors la question, c'est comment on peut se protéger par rapport à ce type d'attaque ? Il existe des mécanismes MFA qui intègrent des solutions basées sur des tokens physiques ou des applications mobiles qui génèrent des OTP de manière décentralisée. Les plus connus sont Google Authenticator par exemple, ou des clés FIDO. FIDO 2 en particulier. De plus, la surveillance des anomalies comportementales des utilisateurs peut aider à détecter ces attaques en temps réel. Alors ça marche si vous avez un budget informatique conséquent. Ces solutions coûtent très cher, elles sont très efficaces, mais il faut un petit budget. Je vous recommande l'article de Security Affairs, il est plutôt bien fait, c'est pas trop mal, ça donne un bon niveau d'info en quelques minutes. Passons maintenant à l'incident de sécurité qui a frappé Transport of London, le TFL. Bien que les détails techniques restent en grande partie confidentiels, il est probable que cette attaque soit le résultat d'une compromission de leur réseau SCADA, utilisé pour superviser les opérations de transport. L'ensemble de ces vulnérabilités potentielles identifiées à travers leur réseau SCADA sont souvent connectées à des systèmes informatiques classiques pour faciliter la gestion, ce qui les expose aux mêmes menaces que les réseaux informatiques traditionnels, tels que les attaques par ransomware ou les injections de commandes malveillantes, d'après Record Media et Security Affairs. Les points d'entrée possibles sont que les attaquants pourraient avoir utilisé une vulnérabilité zero day dans les systèmes SCADA ou exploiter des faiblesses dans la gestion des accès à distance, soit un VPN mal configuré ou une authentification faible. À cette heure, il n'y a pas assez d'informations factuelles pour aller plus loin. Par contre, je vous recommande de lire The Record. C'est une source OSINT qui est gratuite chez Recordit Future, un expert en CTI. Je ne fais pas de pub, ils ne me donnent pas un centime d'euro, donc c'est juste le fait que... ouais, ils ont le bon niveau quand même. Quand vous lisez leurs articles, il y a un peu de sensationnel, c'est normal, il faut bien ramener un peu... Faut ramener le chaland. Mais... il y a du bon au niveau technique. Et si vous faites de la réponse à incident, si vous faites de la CTI, du forensic, c'est une belle source. Alors, nous allons maintenant explorer une évolution troublante dans les attaques d'extorsion par mail. J'ai hésité avant de le mettre, hein, mais là je me dis, ouais, pourquoi pas. Donc c'est ce qu'on appelle les extorsions par sextorsion. C'est les campagnes qu'on reçoit qui disent... que vous avez été sur un site pour adultes. Donc ces campagnes utilisent désormais maintenant les photos de vos domiciles. Alors vous allez dire, mais comment ils font ? C'est efficace parce que vous allez recevoir une photo qui va crédibiliser la menace. Donc les attaquants vont utiliser des bases de données en ligne, accessibles publiquement, pour récupérer des images des maisons via Google Street View ou autre moteur d'images. Ces images sont ensuite incluses dans des emails personnalisés où les attaquants prétendent avoir des vidéos compromettantes. Alors pourquoi ça marche ? C'est la volumétrie et l'automatisation qui va jouer un rôle clé dans ces campagnes avec des scripts Python et des outils comme PhantomJS pour extraire automatiquement les images et les intégrer dans des emails ciblés. C'est pas des campagnes d'emails faits au hasard. Alors pour nous, équipe de sécurité, c'est hyper compliqué parce qu'il faut sensibiliser les employés comme quoi il faut jamais céder à ces menaces parce que vous allez recevoir quand même beaucoup d'informations très précises. Nom, prénom, adresse, la photo de votre maison... si vous êtes tombé sur un site de phishing, parce que c'est comme ça que ça marche, ils vont vous donner tellement d'infos qu'à un moment, vous baissez la garde, vous dites « mais c'est vrai ». Et même si vous n'avez pas été sur ce type de site, vous pouvez être tenté de payer. Il ne faut surtout pas payer. Hein. Au contraire, il faut déposer plainte, il faut aller sur cybermalveillance, il faut déclarer les choses et prévenir vos équipes de réponse à incidents. Donc, la mise en place d'une solution pour analyser les emails, détecter les indicateurs de compromission, ça peut être sympa. Mais c'est surtout c'est le fait de sensibiliser, c'est ce qui marche vraiment. Recevoir un mail de sextorsion, vous allez recevoir un jour ou l'autre. Il y en a qui sont très mal faits, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, J'ai reçu quelques emails sur ce type. Il y a quand même beaucoup d'infos et ils vont croiser les informations par rapport à ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le social engineering. Et c'est assez surprenant. Je vous parlerai sur un cas. Ce que j'attends, c'est qu'il me rappelle pour pouvoir enregistrer la conversation parce que j'ai eu la personne au téléphone. La personne va donner le nom de mon épouse, ce qui est un peu plus compliqué à trouver. Après, il va donner... Alors, il n'a pas les dates de naissance. C'est à partir de là qu'on commence à plus rentrer dans l'histoire. Et son objectif... C'est que derrière cette extension, est-ce que vous payez une rançon, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est du chantage. Et surtout, c'est d'avoir vos codes IBAN ainsi que votre carte bancaire. C'est pour ça que j'attends qu'il rappelle, je suis chaud patate, j'ai tout ce qu'il faut pour enregistrer maintenant. Ça sera un épisode que... Celui-là, il va être cool. J'adore. Enfin, un groupe d'activistes connu sous le nom de Edmar a ciblé activement des organisations en Russie et en Biélorussie en exploitant une vulnérabilité dans WinRAR. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire « Bon, ok, ce sont des Russes, des Biélorusses, ils se font attaquer, quelles que soient les sensibilités que nous avons. » Mais c'est quelque chose qui peut nous toucher à nous tous parce que cette vulnérabilité, elle est très ancienne. Elle date de 2018. Donc, pour les curieux, c'est la CVE 2018-20-250. C'est une vulnérabilité qui n'est pas très critique. Elle a un score qui peut sembler élevé, 7.8. Mais surtout, c'est qu'elle reste exploitée en raison que pas grand monde ne met à jour WinRAR sur ses environnements. Elle va permettre l'extraction arbitraire de fichiers permettant ainsi l'exécution de codes malveillants lorsque des archives sont spécialement ouvertes. Et leur technique d'attaque, elle est basique, ultra efficace. Les attaquants envoient des archives malveillantes en ciblant via des campagnes de phishing ciblées. C'est-à-dire que vous avez été fiché, ils ne vont pas utiliser les données de ce site de phishing pour vous prendre de l'argent au départ. Ils vous ont comme cible de dire « on va rentrer dans votre système d'information ». Et lorsque l'archive va s'ouvrir... Le fichier malveillant qui a été extrait dans un répertoire de démarrage de Windows va entraîner l'exécution du code lors du prochain redémarrage de l'ordinateur. C'est-à-dire que vous ouvrez le fichier, vous dites « mais ça ne me concerne pas, c'est un truc que ça ne m'intéresse pas, etc. » Vous fermez le fichier, vous passez l'antivirus, le pseudo-antivirus ou EDR que vous utilisez. Il ne voit rien, mais il s'est mis dans le répertoire de démarrage et au prochain reboot de la machine, là, vous allez avoir mal. Donc, les mitigations. Comment on fait pour éviter cette erreur ? Il faut mettre à jour WinRAR, faut configurer son EDR un peu plus finement, parce qu'il y a quand même pas mal d'IOC, pas mal de TTPs qui sont sortis, il y a moyen de le faire. Et puis surtout, il y a une chose que je vois encore beaucoup quand je vais voir des petites entreprises, c'est l'ouverture automatique des pièces jointes au niveau des messageries, parce que ça fait gagner du temps. C'est pas une bonne idée. Donc faites très attention si vous voyez que vous ouvrez automatiquement ou que sous votre client de messagerie, vous pouvez voir rapidement un zip, un RAR, etc. Il y a un petit sujet. Dans l'actualité sur les vulnérabilités, le constructeur Denink a récemment annoncé qu'il ne fournirait pas de correctif pour 4 vulnérabilités critiques affectant le routeur Wi-Fi DIR846W. Donc c'est un routeur qui est généralement vendu dans le grand public ou dans les petites entreprises. Et ce qui est terrible, c'est que sur ces 4 vulnérabilités, il y en a 3 qui sont des RCE. Donc c'est ce qu'on appelle du Remote Code Execution critique et qui expose les utilisateurs à des compromissions totales de leur équipement. C'est pas juste... Je rentre dans ton équipement et je vais récupérer. Non, ils prennent le contrôle total de l'équipement qui est évidemment en fin de vie, qui n'est plus maintenu officiellement par D-Link. Et les vulnérabilités identifiées permettent à l'attaquant d'exécuter du code arbitraire sans authentification. Il peut envoyer des paquets, ce qu'on appelle les paquets forgés au routeur. Il pourra prendre le contrôle total du routeur, rediriger le trafic réseau, exécuter des attaques man in the middle ou encore intégrer le routeur à un botnet pour lancer des attaques DDoS. C'est ça le plus pire. C'est-à-dire que, à la rigueur, vous vous dites, bon, à la maison, j'ai rien, j'ai aucun système qui est connecté derrière mon routeur, ils sont éteints durant la journée. Mais pendant que vous êtes au travail, ou que vous êtes parti en vacances, etc., ou même que vous soyez présent, votre fibre à la maison, votre accès à Internet, eh bien, il va servir dans un botnet. Et vous allez être identifié via votre adresse IP que, vous faites de l'attaque. Ce qui a quand même un petit risque d'avoir les amis du matin venir vous dire bonjour. Donc, la mitigation, elle est un peu rude parce que l'équipement, il est end of life. C'est-à-dire que D-Link, il est très clair. Vous avez cet équipement, passez sur la gamme qui existe aujourd'hui. Moi, je vous dirais bien de le remplacer immédiatement, mais ça a un coût, ça a un impact. Alors, la recommandation qu'on lit à travers les différents articles qu'ont mis les chercheurs, c'est de segmenter segmenter le réseau à la maison. Bon, voilà, ça me fait un peu sourire. Par contre, il y a une chose qui marche plutôt bien, c'est d'appliquer des règles de firewall strictes. Évitez que vos équipements à domicile soient ouverts avec des ports. C'est-à-dire qu'on ferme tout en entrée. Et c'est en sortie de chez vous, vous pouvez dire, mais c'est le minima, quoi. Et on voit encore beaucoup de NAS qui sont connectés derrière ce type de routeur, ce genre de choses. Voilà. Donc, changer d'équipement, c'est malheureusement la seule chose qui reste, mais... Donc, après la correction de deux vulnérabilités concernant le navigateur Google Chrome version 128 la semaine dernière, Security Week nous annonce que des chercheurs en sécurité ont trouvé 6 nouveaux bugs hautement critiques. J'ai lu, c'est frustrant parce qu'on vient juste de finir de, moi je viens de finir de mettre à jour toutes mes versions et bah non, il y en a encore 6. Donc, on patch. J'ai l'impression de faire, je pense que je pourrais enregistrer le, en continu, patcher. C'est terrible. Mais là, je crois qu'on va pas avoir, on va pas avoir beaucoup de choix parce que les RSE n'existent pas encore, il n'y a pas d'exploitation. Donc, on a un peu de temps pour une fois, mais ça devrait pas tarder. Je vous en dirai plus cette semaine. De plus, dans les vulnérabilités, la plateforme MISP, utilisée dans la majorité des CSERT et CERT, a reçu des corrections aujourd'hui pour éviter les injections de code via du XSS. Donc mes chers collègues, je vous invite très fortement à mettre à jour vos instances MISP, en particulier pour ceux qui elles sont exposées sur Internet. Le Circle a détaillé le changelog via le guide du projet MISP. En plus, il n'y a pas d'excuse pour mettre à jour un MISP, on va sur la plateforme, on se connecte, on se met en mode administration, il y a juste à faire update. Donc messieurs, mise à jour. Mes chers collègues, j'aimerais pas faire un épisode sur vous. Pour conclure, nous analysons la fuite de données chez Halliburton, résultant d'une attaque par le groupe Ransom Hub. Ce groupe, on l'a détaillé la semaine dernière, c'est un groupe extrêmement actif depuis le début de l'année. Donc, ils ont réussi à exfiltrer des données sensibles et ils ont fait de l'exfiltration de données avant de chiffrer le système d'information. Donc, ils ont utilisé une variante du malware Ransom Hub qui intègre à la fois des fonctions de chiffrement de données et de collecte de données sensibles pour les exfiltrer vers un serveur C2, donc un command and control. Il est probable, d'après Bilping Computer, que l'infection initiale soit due à un phishing ciblé exploitant une vulnérabilité zero day ou une configuration faible d'un service exposé en ligne. Lisez l'article de Bilping. Moi, j'ai trouvé intéressant parce qu'ils ont des infos. Je pense qu'ils ont, ils ont des espions dans les boîtes parce qu'ils ont un niveau de détail qui est assez intéressant. Dans le cas présent, on est sur quelque chose qui malheureusement est classique et qui marche très bien pour ce groupe d'attaquants de Ransom Hub. Ils vont utiliser un phishing. Ils ont un certain nombre de 0D en stock ou de vulnérabilités qui sont sorties. Ce ne sont plus des 0D, ce sont des vulnérabilités qui sont sorties depuis quelques semaines, quelques jours. Ils les utilisent et c'est redoutable, quoi. Voilà pour cette actualité du mardi 3 septembre 2024 sur Radio CSERT. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. J'attends avec impatience vos retours sur le répondeur de Radio CSERT. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vos systèmes. Et à demain. J'ai faim, là. Time to raclette, ouais. Petite raclette, là, vite fait.